Alors oui, on va peut-être ce soir terminer cette étude sur pourquoi je crois. Peut-être ce sera mardi prochain qu'on terminera. Toujours est-il que notre désir, c'est de voir encore une fois les raisons logiques, les raisons qui existent, de pouvoir croire en Dieu, de pouvoir croire en la Bible, de pouvoir croire au message de l'Évangile et surtout de croire en Jésus-Christ. Parce que effectivement, la personne centrale de toute la Bible, des Écritures saintes, c'est Jésus-Christ. Et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'il nous faut considérer avec la plus grande attention, parce que son œuvre, c'est ce qui distingue le véritable christianisme de toutes les sectes, religions ou pensées qui peuvent exister dans le monde. Et nous étions en train de voir le fait que la Bible ne présente pas une religion. La Bible présente le moyen, eh bien, de connaître Dieu, le moyen d'établir une relation, hein, qu'on puisse connaître véritablement Dieu et ce qu'il attend de nous. Et ce qui est intéressant de voir aussi, surtout en lisant les évangiles, quand on parle des œuvres de Jésus-Christ, les gens retiennent surtout, ah oui, il a fait des bonnes choses. Il a guéri les malades, il a nourri les foules. Très peu savent que Jésus, il a aussi renversé les tables des monnayeurs et des vendeurs dans le temple 2 fois. Très peu aussi savent que Jésus condamnait la religion qui existait à son époque. Il condamnait hein, ce formalisme religieux que les pharisiens, que les scribes prêchaient. Et par cela, il faisait vraiment peser un lourd fardeau sur le peuple. Et donc Jésus-Christ lui-même condamnait cette religion humaine, l'hypocrisie hein, des pharisiens et des scribes. Il faut noter que justement cette religion établie a été l'un des plus farouches opposants à Jésus durant son ministère terrestre. Chaque fois qu'on voit les interactions du Seigneur Jésus avec ses chefs religieux, que ce soit les scribes, les pharisiens, parfois les sadducéens, mais surtout pharisiens et scribes, à chaque fois leurs questions avait toujours un objectif de nuire à Jésus. Toujours. Il n'était pas en quête de vérité. Il cherchait le moyen, eh bien, de faire en sorte que Jésus, eh bien, se ridiculise par une réponse peut-être inappropriée ou contraire à la loi des pharisiens, etc., et que le peuple, eh bien, change d'avis sur Jésus. Lorsque Dieu avait donné la loi au peuple d'Israël, ce qu'il désirait avant tout, et c'est ce qu'on voit dans le premier commandement et le plus grand commandement, ce que Dieu désirait, c'est que ce peuple d'Israël, eh bien, aime le Seigneur, leur Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. On voit ça dans Deutéronome 6, 5, mais également dans Matthieu 22 et verset 37, où ces commandements sont répétés comme étant le plus grand commandement, celui vraiment d'aimer Dieu de tout son cœur. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est. Bon, déjà, l'amour implique qu'il y ait une relation, n'est-ce pas? On ne peut pas aimer sans qu'il y ait une personne à aimer. D'ailleurs, petite pause, petite parenthèse par rapport à cela. S'il y a des personnes qui vous disent que la Trinité, ça n'existe pas, c'est pas dans la Bible, que Dieu n'est qu'un seul, la Bible nous dit que Dieu est amour, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est-ce pas? Qui donc a-t-il aimé pendant toute l'éternité avant qu'il ait créé qui? Les anges ou les êtres humains? Dieu est amour et cet amour, il l'a manifesté envers le Fils, envers l'Esprit. Et ça, c'est logique de voir cela quand on comprend ce que c'est que la Trinité, quand on comprend qui est Dieu. Mais l'amour, ça implique une relation. Et c'est une relation qui est à double sens. Et l'obéissance à tous les autres commandements que Dieu avait donnés, ben justement, devait découler de cet amour du peuple d'Israël pour Dieu. L'amour que Dieu nous a manifesté, c'est ce qui nous aide, nous, à l'aimer en retour. Hein, c'est ce que 1 Jean chapitre 4, verset 19 nous rappelle, hein, que nous pouvons l'aimer parce que lui nous a aimés le premier. Et la manifestation de son amour envers nous a été la plus grande manifestation d'amour possible. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Hein, Dieu a manifesté son amour pour l'humanité, en ce qu'il n'a pas laissé l'humanité empêtrée dans son péché, comme on avait pu le voir la dernière fois par rapport déjà en Genèse chapitre 3, avec cette promesse de ce que eh bien, la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, n'est-ce pas? Et que Dieu donnait déjà les indices, Dieu donnait déjà les promesses par rapport à une victoire sur le péché. Par contre, à l'époque de Jésus, effectivement, les chefs religieux avaient détourné la parole de Dieu, avaient détourné la loi qui avait été confiée à Moïse, et ils avaient transformé cette relation d'amour qu'ils devaient entretenir avec Dieu par une religion qui était devenue impossible à suivre. Parce qu'au commandement que Dieu avait donné, eh bien, les chefs religieux avaient rajouté et rajouté et rajouté une flopée de lois à suivre. Et souvent, c'était des interprétations complètement exagérées de ce que la loi disait. Hein, rappelez-vous, hein, lorsque les disciples de Jésus avaient osé cueillir des épis un jour de sabbat. Oh, ils travaillent! Hein, et ils ont enfreint le sabbat! Et on comprend bien que, au fil des ans, les chefs religieux avaient perverti la loi de Dieu en une religion qui était basée sur des œuvres, et c'est ce qui éloignait les gens de Dieu. Ils ont ajouté donc beaucoup de leurs propres règles, hein, et se vantaient, hein, d'être les seuls pratiquement à pouvoir observer la loi, hein, du moins en apparence, n'est-ce pas? Et ils faisaient tout pour que les gens puissent voir, hein, leurs efforts et leur capacité à suivre la loi. Hein, on sait que lorsqu'ils donnaient aux pauvres, il fallait que ça se sache. Hein, on le criait, voilà, je donne tant à telle personne. Et il fallait toujours que ce soit ostentatoire. Il fallait toujours que les gens puissent voir, ah, quel grand religieux ce sont ces pharisiens. Mais les pharisiens, aussi adeptes qu'ils fussent de l'observance des règles, ils n'ont pas reconnu Dieu lui-même quand Dieu s'est présenté à eux, lorsqu'il était juste devant eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Hein, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obnubilés par leur propre personne, par leur propre religion, par leurs propres œuvres, si bien que le Dieu qu'ils disaient adorer, ils ne le connaissaient pas. Ils avaient choisi une religion plutôt que cette relation avec le Dieu éternel. Le christianisme ne consiste pas à adhérer à une religion. Il s'agit d'abord de naître dans la famille de Dieu. Hein, c'est ce que le Seigneur Jésus avait dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir toute la religion, peut avoir accompli toutes sortes de bonnes œuvres. Si cette personne n'est pas née de nouveau, il lui sera impossible d'aller dans la présence de Dieu. Entrer dans la famille de Dieu, ça implique encore une fois qu'il y ait cette relation qui soit créé. Et ce n'est pas nous, par nos propres efforts, que nous pouvons eh bien, faire changer l'avis de Dieu sur le fait de nous adopter. Hein, on connaît le système d'adoption. On sait bien que c'est des couples qui vont visiter un orphelinat pour trouver un enfant adopté. C'est pas l'enfant qui va visiter des parents et oh, ben je le veux lui. Non, c'est Dieu qui fait cette démarche. Et il a fait cette démarche à travers Jésus-Christ. Et donc c'est une relation. Hein, tout comme un enfant adopté n'a pas le pouvoir de créer son adoption, nous n'avons pas, nous, le pouvoir de rejoindre la famille de Dieu. Nous avons besoin que ce soit Dieu qui nous appelle à lui. Nous avons besoin que ce soit Dieu, eh bien, qui accepte de nous accueillir en son sein. Dieu, oui, veut que nous le connaissions, que nous nous approchions de lui, que nous le prions, que nous l'aimions par-dessus tout. Mais ça, ce n'est pas de la religion. Ça, c'est avoir une relation avec Dieu, c'est connaître Dieu. Et donc cette relation que la Bible nous montre, c'est une relation qui est fondée sur la grâce de Dieu, parce que sans cette grâce-là, l'enfant qui veut être adopté, sans qu'il y ait des parents qui aient le désir et la volonté de manifester cette grâce, d'accepter un enfant, de l'adopter, sans cette grâce, ce n'est pas possible. Et donc cette relation que le christianisme nous enseigne à travers la Bible, eh bien c'est sur la grâce entre Dieu et l'homme, et c'est le fondement donc du christianisme, et par conséquent c'est même l'antithèse de la religion. Parce que la religion, ce sont les efforts de l'être humain. Mais le christianisme nous montre l'œuvre que Dieu a accomplie pour l'être humain. Selon le christianisme, Dieu a fait pour nous, eh bien, ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Colossiens 2:13 nous rappelle, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » C'est Dieu qui fait grâce. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, qui pratiquons quoi que ce soit, pour obtenir la grâce, parce que la grâce, c'est un cadeau. On ne travaille pas pour un cadeau, on travaille pour un salaire, mais on ne travaille pas pour un cadeau. 2 Corinthiens 5:21 nous dit également que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers Jésus-Christ et à travers le sacrifice qu'il a porté sur la croix, il a fait en sorte que notre condamnation, eh bien, soit transférée à Christ, que eh bien, le châtiment de nos péchés soit transféré à Christ. Et ça, c'est de la grâce. Et c'est l'amour. Parce qu'effectivement, notre péché, c'est ce qui nous sépare de la présence de Dieu, c'est ce qui nous empêche d'avoir cette relation avec lui, de le connaître. Et le péché, Dieu nous dit qu'il est un Dieu juste et ne peut pas laisser le péché impuni. Mais parce qu'il nous aime, bien oui, il a pris sur lui notre châtiment. Et tout ce que nous devons faire, et ceux qui parmi nous ont fait cela, c'est d'accepter cette grâce, c'est d'accepter ce don du salut en reconnaissant qui a fait que cela soit possible. Jésus-Christ. Parce que cette grâce, c'est oui, une bénédiction de Dieu pour ceux qui ne méritent pas, on ne mérite pas la grâce. Mais cette grâce, elle a été mise à la disposition de tout être humain par Jésus-Christ. Alors il est important pour nous de regarder à qui est Jésus-Christ justement, pour comprendre l'ampleur du message du christianisme, de comprendre pourquoi le christianisme, ce n'est pas une religion comme on peut trouver à différents endroits du monde, parce que la personne centrale, c'est Christ. Et Christ a déclaré des choses, revendiqué des choses, qui, même s'il y en a d'autres qui ont pu revendiquer « moi je suis Dieu », lui, il a pu le démontrer. La première des revendications, c'est par rapport à son rôle, celui de Messie. Hein, Jésus a revendiqué qu'il était le Messie. Rappelez-vous de cette rencontre avec la femme samaritaine, où le Seigneur Jésus va progressivement faire connaître à cette femme qui il est réellement. Et dans Jean chapitre 4, versets 25 et 26, nous lisons, cette femme samaritaine dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et notez bien la réponse de Christ. Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus a revendiqué être le Messie, loin de Dieu, celui qui avait été promis, celui qui devait venir pour sauver son peuple de ses péchés, celui qui devait venir en Israël et accomplir toutes ses prophéties concernant ce Messie, Jésus a déclaré être le Messie. Et on a eu l'occasion de voir combien les prophéties que nous trouvons dans l'Ancien Testament et que Christ a accomplies, il est le seul à l'avoir fait. Le Messie est clairement annoncé dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, comme étant de nature divine, comme ayant cette essence divine, n'est-ce pas? Et ça, les pharisiens aussi, ils auraient dû le comprendre et le savoir, que celui que Dieu avait promis, il ne pouvait pas être un simple homme. Il était bien plus que cela. Ésaïe chapitre 9, les versets 5 à 6 nous dit « Car un enfant nous est né ». Ah oui, alors là, c'est un être humain, il est né. « Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Mais notez bien, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Comment un être humain né d'une femme pouvait-il être appelé Dieu puissant? Comment les pharisiens qui étaient supposés connaître les Écritures et les scribes pareil en lisant ces passages d'Ésaïe, comment ne pouvaient-ils pas savoir que ce Messie devait être de nature divine, mais aussi humaine? Un fils nous est donné, un enfant nous est né, il sera appelé Dieu puissant, Père éternel. Prince de la paix, hein, et donner à l'Empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Notez bien que cette double nature qui est présentée dans cette prophétie, Jésus l'a revendiquée, n'est-ce pas? Dans Marc, chapitre 14, versets 61-62, nous voyons que Jésus en revendiqua qu'il était... le Christ, le Fils du Dieu béni. Parce que lorsque le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau, il lui demanda « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répondit « Je le suis. Je le suis. » Je crois qu'il n'y a pas plus claire déclaration de la part de Jésus lorsqu'il déclare être le Messie et le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Si effectivement Jésus avait été un être humain comme tous les autres, et simplement qu'un être humain, comme n'importe lequel d'entre nous, nous dirions « Ah non, 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 hein, si je suis arrêté, je sais qu'ils vont me faire du mal, ou je sais qu'ils vont peut-être me mettre à mort, j'ai qu'une idée en tête, sauver ma peau. » N'est-ce pas? Mais Jésus a revendiqué être le Messie et être le Fils de Dieu. Les revendications divines de Jésus sont multiples à travers les Écritures. Hein, il revendiqua être le « Je suis » que l'on trouve dans l'Ancien Testament. « Je suis hein, », c'est la formule par laquelle l'Éternel se présenta à son peuple. « Dis-leur, mon nom est « Je suis ». Je suis celui qui suis. Yahvé, éternel. » En Jean chapitre 8, verset 58, Jésus déclara, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, tous les professionnels du français diront, ça ne sonne pas juste, ça. C'est avant qu'Abraham fût, j'étais. Ça, c'est correct. Ben, notre traduction française, elle suit ce que le grec a écrit, la manière dont le grec est écrit, c'est bien « je suis ». Et il y a une raison pour ça. Parce que Jésus, en disant cela, il déclare qui il est, il déclare son identité, il déclare son éternité, n'est-ce pas? Et Jésus s'est identifié avec le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans Exode 3,14, dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dans ce même chapitre 8 de Jean, un peu avant, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne me croyez pas, car si vous ne croyez pas ce que je suis, et dans le grec, hein, le pronom ce n'apparaît pas, hein, littéralement, c'est car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. La déclaration de Jésus, c'est que si vous ne croyez pas que je suis, moi, je suis Dieu, vous ne pourrez pas être sauvés. Non seulement Jésus a revendiqué la divinité, il affirme qu'il faut croire en lui, croire qu'il est Dieu, pour qu'une personne puisse être sauvée. Jésus revendiqua son unité avec le Père, n'est-ce pas? Jean 10, 30, moi et le Père sommes un. Et la réaction des Juifs, lorsque Jésus déclara cela, montre qu'ils avaient bien compris le message. Hein, pour ceux qui doutent que Jésus n'a jamais dit être Dieu, les Juifs avaient très bien compris ce que Jésus disait. Parce que le verset suivant, nous est dit que les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et la raison pour laquelle ils veulent le lapider est très claire. Versets 32 à 33, hein, Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Ils avaient pleinement compris la déclaration de Jésus. Et Jésus, à d'autres moments, revendiqua aussi les attributs que seul Dieu possède, comme l'omniprésence. Hein, lorsqu'il dit à ses disciples en Matthieu 18:20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Christ est présent. Il est omniprésent. L'omniscience également, lorsque dans Jean chapitre 1er, les versets 48 à 50, eh bien, il y a cette rencontre avec Nathanaël, et Nathanaël lui pose la question: D'où me connais-tu? Et Jésus lui répond: Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus connaissait déjà Nathanaël. Et la réaction de Nathanaël, c'est: Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois et tu verras de plus grandes choses que cela. Christ a revendiqué également l'éternité. N'est-ce pas? On a vu déjà lorsqu'il a déclaré qu'avant qu'Abraham existait, il dit: Je suis. Dans Jean 17, verset 5, il dit dans sa prière: Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Avant que le monde soit. Et plus loin, en verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'avais donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Christ a aussi déclaré être la vérité. Dieu est la vérité. Hein, le psalmiste, au chapitre 31, verset 6, il dit: Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Jean 14, 6, hein, qu'on a chanté ce soir: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus revendiqua également la puissance d'accomplir des actes divins, comme le pardon des péchés, hein, dans Marc chapitre 2 et verset 10, le pouvoir de ressusciter ceux qui croient en lui, dans Jean chapitre 6, verset 40, le pouvoir de donner la vie éternelle, Jean 4, verset 14, chapitre 10, verset 27 à 28. Et puis, il y a encore une fois cette revendication officielle, parce que là, on ne peut pas faire plus officiel que lorsque l'on est dans un procès, dans un tribunal, et qu'il y a beaucoup de personnes autour qui sont là réunis pour accuser. Il n'y a pas plus officiel comme déclaration à ce moment-là que lorsqu'on lui a posé cette question: Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Et qu'il réponde: Je le suis. Et ce qu'il faut bien comprendre là au sujet de Jésus-Christ, c'est qu'il n'a pas été condamné pour ce qu'il a fait. Il a été condamné pour avoir déclaré qui il était. Il a été condamné parce qu'il a déclaré être Dieu. Alors oui, Jésus a bel et bien revendiqué être Dieu. Il le fait, le fait qu'il ait accompli hein, les prophéties messianiques, qu'il soit ressuscité des morts, et tout cela associé hein, à toutes les nombreuses revendications de sa part, prouve que Jésus est Dieu. Il l'a déclaré et il l'a démontré. Alors ça nous amène à un choix. Et c'est un choix pour chaque être humain. Il faut se poser cette question: qui est donc Jésus pour vous? Et là, on a ce qu'on appelle un quintilemme. Un quintilemme, c'est d'avoir cinq choix possibles. Cinq choix possibles. Le Nouveau Testament présente Jésus comme une personne réelle, comme une personne historique, qui a revendiqué donc la divinité. Il a revendiqué être Dieu. Alors déjà, il y a deux options possibles là. C'est que soit le Nouveau Testament dit vrai, soit c'est complètement faux et il ment. Alors si le Nouveau Testament ment, alors Jésus n'est qu'une légende comme Hercule, hein, et tant d'autres. Par contre, si le Nouveau Testament dit vrai, alors là, ça nous amène à un autre choix. Soit Jésus voulait qu'on le comprenne dans un sens mystique, et alors Jésus, ben, ce n'est qu'un gourou, un chef religieux qui a fait sa petite religion, qui a fait sa petite secte. Ou bien Jésus voulait vraiment que les gens qui l'écoutaient, eh bien, le prennent au mot dans ce qu'il disait. À ce moment-là, il faut considérer ceci. Soit sa revendication d'être Dieu, elle est fausse. Donc Jésus aurait menti. Soit sa revendication d'être Dieu est vraie. Si elle est fausse, ben Jésus, alors à ce moment-là, il savait que c'était faux, c'est un menteur. Ou bien il ne savait pas que c'était faux, puis c'est quelqu'un qui avait perdu la raison, qui était fou. Par contre, si sa revendication d'être Dieu est vraie, alors là, la conclusion qu'il nous faut, à laquelle il nous faut arriver, c'est que Jésus est Seigneur. Il est réellement celui qu'il a dit être. Il est réellement Dieu. Alors regardons juste vite fait, parce que je vais essayer de terminer ce soir quand même. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas une légende? On a déjà vu et établi que bah, le Nouveau Testament, c'est un document qui est fiable. C'est un document qui, eh bien, à travers les siècles, est demeuré fiable. On a les preuves internes et des preuves externes qui appuient le message qui est présenté dans le Nouveau Testament. On a le témoignage de personnes, parce que ce n'est pas simplement à ses disciples, hein, aux 11 qui étaient réunis, apeurés, hein, dans leur petite pièce, là, et il n'est pas apparu qu'à eux. Il est aussi apparu à plus de 500 à la fois. Il y a 500 témoignages de plus de la résurrection de Jésus-Christ. Et après, tous ceux qui ont entendu que Jésus était ressuscité, hein, et les premières d'entre elles, hein, d'entre les disciples, c'était les femmes qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Et on a déjà parlé du fait que, eh bien, si, eh bien, les disciples voulaient vraiment donner du poids à leur message pour prouver que Jésus était ressuscité, le fait de choisir des femmes comme premier témoin, c'était pas un choix judicieux. Parce qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le même poids que les hommes dans la société. Et donc le témoignage d'un homme valait bien plus que le témoignage d'une femme. Et donc le Nouveau Testament nous donne une image précise de qui Jésus est. Et c'est pour ça que nous tenons à nous appuyer sur le message du Nouveau Testament pour connaître qui est Jésus-Christ. On ne va pas chercher dans des documents obscurs, hein, de ceux qui ont créé des légendes au sujet de Jésus-Christ, mais nous appuyons sur le témoignage de ceux qui ont connu Jésus-Christ ou de ceux qui ont retranscrit ces choses pour nous, qui se sont appuyés directement sur le témoignage de ceux qui ont vu ces choses. Alors pourquoi Jésus n'était-il pas non plus un gourou? Ben déjà, Jésus, en tant que juif, il avait été élevé dans une culture strictement monothéiste. C'est-à-dire que dans la compréhension même du judaïsme, même pour les pharisiens, Dieu est un. Et ils étaient farouchement attachés à ce concept théologique-là. Les enseignements de Jésus n'étaient pas mystiques. C'était bien l'enseignement, ben, d'un rabbin juif qui croyait en un créateur transcendant. Et laissez-moi juste faire cette citation, hein, de C.S. Lewis pour ceux qui le connaissent. Il dit: J'essaie ici d'empêcher quiconque de dire la chose vraiment stupide que les gens disent souvent de lui, au sujet de Christ. Souvent les gens disent donc: Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand enseignant de morale, mais je n'accepte pas sa revendication d'être Dieu. C'est bien là une chose que nous ne devons pas dire. Un homme qui n'était qu'un simple homme et qui a déclaré le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand enseignant de morale. Il serait soit fou, au même titre que l'homme qui prétend être un œuf poché, soit il serait le diable de l'enfer, parce qu'il serait en train de mentir. Et donc il dit, vous devez choisir. Soit cet homme était et il est le fils de Dieu, ou bien c'était un fou, ou bien pire encore, vous pouvez le prendre pour un fou, vous pouvez lui cracher dessus et le tuer comme un démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne venons pas avec tout ce non-sens condescendant en le limitant à n'être qu'un grand enseignant humain. Ce n'est pas ce qu'il a voulu faire savoir de lui, ce n'était pas son intention. Pourquoi n'était-il pas non plus un menteur? Alors, Peter Christ, un apologiste chrétien, il a dit que bon, Jésus, il pouvait pas, logiquement, en toute logique, il pouvait pas être menteur. Et il a dit la première chose, c'est à cause de son profil psychologique. Parce qu'il a étudié le profil de Jésus, hein, qui est présenté dans les évangiles. Et il dit son profil psychologique ne correspond pas à cela. Il était altruiste, il était affectueux, il prenait soin des autres. Il était compatissant, il était passionné au sujet de la vérité, il aidait les autres à la trouver. Les menteurs mentent pour des raisons égoïstes, n'est-ce pas? Hein, quand nous on ment, c'est pour se sortir d'affaires quelque part, n'est-ce pas? C'est une décision égoïste lorsqu'on ment. Pour de l'argent, pour la renommée, pour le plaisir ou pour le pouvoir. Jésus n'avait aucune de ces choses-là, n'est-ce pas? Peut-être la renommée parce que son enseignement touchait le cœur des gens, parce que ces miracles ont guéri hein, des milliers de personnes, mais il ne possédait rien. Et même sa propre vie, il l'avait donnée. Mais aussi à cause du manque de mobile. Il faut une raison. Et il dit, parce qu'il n'existe aucun motif raisonnable pour un tel mensonge. Cela lui a valu la haine des hommes, le rejet, l'incompréhension, la persécution, la torture et la mort. Il n'y avait pas de raison valable pour lui de continuer à mentir. Si effectivement il était un menteur, il n'y avait aucune raison pour lui d'aller jusqu'à la mort. Il n'avait rien à gagner. Pourquoi n'était-il pas fou? Parce qu'encore une fois, là aussi, les profils psychologiques s'opposent. Un fou manque les qualités mêmes qui jaillissent de Jésus, une sagesse pratique, un amour qui est juste, une créativité imprévisible. On voit toutes ces choses en Jésus-Christ. Aucun juif ne pouvait sincèrement penser être Dieu, n'est-ce pas? Il savait même qu'avec tout l'enseignement qu'il avait reçu dans le judaïsme, le simple fait de déclarer comme il l'a fait avant qu'Abraham fût « Je suis », lui valait la mort. Et les Juifs qui ont entendu dire ces paroles-là étaient prêts à le lapider, n'est-ce pas? Aucun Juif, donc, ne pouvait sincèrement penser être Dieu. De tous les peuples à travers l'histoire, le peuple juif ne pouvait pas confondre le Créateur et la créature. Et le seul peuple faisant donc une distinction absolue et absolument claire entre le divin et l'humain, c'était le peuple d'Israël. Alors, quelle est la seule option raisonnable, logique? Bien, nous devons conclure que Jésus n'était pas une légende, n'était pas un gourou, n'était pas un menteur, n'était pas un fou, mais il est bel et bien ce qu'il revendiquait être, le Messie, Dieu, Dieu le Fils. Et nous basons donc notre raisonnement sur toutes ces choses que nous avons déjà étudiées, hein, sur le fait que le Nouveau Testament est un document historiquement précis, fondamentalement fiable et digne de confiance. Et sur la base de ce document fiable, ben, on a suffisamment de preuves pour croire que Jésus soit ressuscité, comme il a annoncé, comme il avait prophétisé. Et il a accompli des douzaines de prophéties messianiques. La résurrection de Jésus ainsi que l'accomplissement des prophéties nous montrent qu'il est ce qu'il avait dit de lui-même, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu incarné. Et en tant que Fils de Dieu, Jésus-Christ est donc une autorité infaillible. Puisqu'il est Dieu, il ne peut pas être menteur, n'est-ce pas? Dieu ne ment pas. Et ce qu'il dit est absolument donc digne de confiance. Et donc Jésus-Christ, il enseigna que la Bible, elle est la parole de Dieu, et il enseigna également que le seul chemin vers Dieu, eh bien, c'était lui. Et donc ce que Christ a dit, non seulement nous pouvons le croire, mais nous devons le croire. Parce que la Bible, elle est la parole de Dieu. Et elle nous a présenté Dieu, tout ce que nous devons savoir de lui. Et tout ce que nous avons besoin de savoir pour le connaître et pour être adopté dans sa famille. Et Jésus est donc le seul chemin vers Dieu, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il est Dieu. Donc je sais que, bon, à travers cette étude, on a vu pas mal de choses et on aurait pu rajouter encore plein d'autres choses dedans. Des raisons pour lesquelles croire que Dieu existe. Croire que la Bible est sa parole, Croire que Jésus est fils de Dieu, croire qu'il est le seul par qui nous pouvons être sauvés de nos péchés. Et j'espère que pour chacun d'entre nous, ça a été une bénédiction et puis une aide aussi pour nous-mêmes, pour nous encourager dans notre foi, mais aussi une aide dans notre présentation de l'Évangile aux personnes autour de nous, hein, d'avoir différents arguments. Et je sais qu'il y a plein de questions que les gens ils ont. Et c'est important pour nous d'étudier la parole, de rechercher les réponses, de pouvoir en donner ces réponses-là. Mais merci Seigneur, parce qu'il nous a donné sa parole, qu'il nous a donné aussi des frères et des sœurs en Christ qui ont de grandes connaissances, qui ont les capacités de présenter les choses aussi de manière simple pour qu'on puisse tous les comprendre et partager avec les autres. Et c'est fascinant de voir comment Dieu il emploie hein, les uns et les autres pour cela. Mais voilà les raisons pour lesquelles je crois. Je ne crois pas parce que je suis né dans une famille chrétienne, je crois parce que déjà l'exemple de ce que j'ai pu voir dans une famille chrétienne, mais de voir à travers les Écritures, de pouvoir observer, même dans le monde, dans la nature, de voir toutes ces choses et de les mettre ensemble, ça me fait arriver qu'à une seule conclusion. La Bible est vraie, Jésus-Christ est Dieu, et il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour que je sois pardonné de mes péchés. Et il est vivant. Et ça, c'est une conclusion logique par rapport à ce que la Bible nous dit. Est-ce qu'il y a